Bonsoir. La semaine dernière, une sixième attaque contre des militaires près de Paris a de nouveau posé la question de la pertinence, de l'intérêt du dispositif Sentinelle mis en œuvre après les attentats de janvier 2015. Ce dispositif, qui se traduit par le déploiement sur tout le territoire de 7 à 10 000 soldats, est aujourd'hui vivement critiqué. Certains experts militaires estiment que Sentinelle n'a plus lieu d'être, d'autres qu'il faut l'adapter et revoir les effectifs à la baisse. Alors, qui croire ? Qu'en penser ? Ce sont quelques-unes des questions que nous allons nous poser ce soir.
Philippe Lefebvre, le téléphone sonne.
Pour répondre à ces questions, dans le studio, Jean-Jacques Bridet, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes député La République En Marche du Val-de-Marne et président de la commission de la défense à l'Assemblée
nationale. Et des forces armées.
Et les forces armées à l'Assemblée nationale. Et au téléphone, Bénédicte Chéron, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes historienne et enseignante à l'Institut catholique de Paris. Et pour vous interroger à mes côtés, Nathalie Hernandez, la spécialiste des questions de défense à France Inter. Bonsoir Nathalie.
Bonsoir à tous.
Et pour réagir, eh bien, vous pouvez tout simplement nous envoyer des mails sur le site franceinter.fr, prendre contact avec nous via les réseaux sociaux avec le mot-clé Telson et enfin, bien sûr, via le standard, le 01 45 24 7000.
France Inter, le téléphone sonne. Vos questions 01 45 24 7000 ou sur les réseaux sociaux avec le mot-clé Telson.
Alors, Jean-Jacques Bridet, je disais tout à l'heure en ouverture que le dispositif Sentinelle était, depuis l'affaire de Levallois-Perret, vivement critiqué. C'est une vision de journaliste, ça, où on sent quand même, vous, parlementaires, dans vos rangs, dans les rangs des autres partis qui siègent à l'Assemblée nationale, que ça pousse un petit peu pour remettre en question Sentinelle ?
Je n'ai pas ce sentiment-là. Hein. Qu'il y ait des critiques, c'est normal. Tout dispositif est critiquable. Mais en tout cas, dans la réalité, je ne vois pas, je ne sens pas ce sentiment, même quand on va sur le terrain voir nos soldats, que ce soit du côté des parlementaires ou des chefs d'état-major. C'est un dispositif qui est pertinent, c'est un dispositif qui a montré son efficacité. C'est un dispositif qui a été monté en quelques jours, quelques heures, où l'armée française a été capable de déployer sur l'ensemble du territoire 10 000 hommes à l'époque, en position statique sur les différents endroits qui étaient ciblés, qui pouvaient être ciblés, que ce soit des endroits touristiques, cultuels, de transport, hein, les gares, les aérogares. Et on a bien vu les effets que ça a fait. Il y a eu plusieurs attaques contre Sentinelle. Et par exemple, si on regarde de près celles qui se sont passées soit au musée du Louvre, soit à l'aéroport d'Orly, s'il n'y avait pas eu nos soldats présents, je ne sais pas comment se seraient terminées ces attaques terroristes. Donc ayons un peu, gardons un peu de raison dans les critiques. C'est un système qui a déjà évolué, passant de 10 000 à 7 000, passant de postures statiques à des postures dynamiques, hein, donc on les voit déambuler, ils sont plus statiques, et on est passé de 10 000 à 7 000. Donc maintenant, il y a une réflexion, il ne faut pas se cacher, une réflexion qui est faite par les chefs d'état-major de l'armée de terre pour appréhender la pertinence, pour voir si on peut rendre ce dispositif encore plus efficace et plus réactif par rapport à des attaques dont on ne connaît pas la modalité ou le contenu aujourd'hui.
Nathalie Hernandez, dans la population, on est passé de ce sentiment, on a l'impression qu'on est passé de ce sentiment rassurant de voir ces militaires FAMAS à la main, à un côté un peu, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose ?
Alors, je pense que psychologiquement, dans la population, et le général Bossert que vous avez entendu récemment en audition à la commission à l'Assemblée nationale le disait, lui-même a été sur le terrain et s'est rendu compte qu'effectivement, psychologiquement, en tout cas, ça rassure de savoir qu'il y a des militaires qui patrouillent, qui sont là, qui sont prêts à intervenir s'il se passe quelque chose. Du côté des militaires, certains le disent aussi, on préfère être une cible plutôt que de voir des civils tués. Et on est là aussi pour les défendre. Historiquement, l'armée a eu une implication, et Bénédicte Chéron nous le dira, très ancienne pour la sécurité du territoire national. Hein. Après, il y a des choses qui sont modifiées avec la gendarmerie, puis la police qui ont toutes deux repris les questions de sécurité intérieure. Mais même le général Bosser le dit, il faut que Sentinel continue, mais il faut qu'il soit revu et réadapté.
Rappelons-le, le général Bosser, c'est le chef d'état-major de l'armée de terre. Voilà, donc quand même une des voix qui compte dans le monde militaire. Bénédicte Chiron, même question pour vous. Hein, vous sentez un peu cette remise en cause aujourd'hui de Sentinel ?
Moi, j'évite de me baser sur ce qu'on peut sentir ou ressentir parce que c'est toujours très flou et puis on est tous impliqués à titre personnel dans le débat parce qu'on est des citoyens français et que les militaires de l'opération Sentinelle, on les fréquente quotidiennement là où on vit. En revanche, en fait, quand on essaye de se fonder sur des critères un petit peu objectifs, ce qu'on constate au sein de la population française, c'est qu'il y a une très grande stabilité dans les études d'opinion. On a effectivement de manière très stable 75% des Français qui approuvent l'opération Sentinelle. Simplement, quand on leur pose une seconde question qui est de savoir non plus seulement s'ils approuvent et qui appelle une réponse un peu binaire et peut-être un peu instinctive et peut-être un peu irrationnelle, comme on peut tous la faire quand on est confronté à la menace terroriste, quand on pose une seconde question qui appelle à la réflexion, qui est de savoir si on la juge efficace, cette opération, on a des chiffres qui sont beaucoup moins élevés puisqu'ils oscillent selon les moments entre 50 et 60%. On a pendant très longtemps eu 50% des Français seulement, à peine, même à un moment on était à 48%, donc à peine un Français sur deux qui pensait l'opération Sentinelle efficace. Ce chiffre est monté à 60% juste après les attaques du Louvre et d'Orly qui ont produit une espèce d'effet psychologique important. Voilà, donc on est sur ces chiffres-là. Après, il se passe toujours ce qui se passe comme dans tout débat de société, c'est-à-dire qu'au moment même du début du lancement de l'opération Sentinelle, après les attentats de janvier 2015, et puis dans l'immédiate après novembre 2015, il y avait un effet important hein, des deux vagues d'attentats majeurs qui ont ébranlé le pays et qui ont fait que finalement très peu d'experts et très peu de chefs militaires et très peu de politiques ont discuté la légitimité de cette opération. On pouvait estimer en effet que dans un contexte d'urgence et dans une espèce de brouillard, hein, on peut parler parfois du brouillard de la guerre, mais là il y avait peut-être aussi un brouillard sur la perception de cette menace terroriste, on pouvait trouver légitime de mobiliser très massivement des militaires sur le territoire national. En revanche, effectivement, le temps passant, s'est posé la question de la pérennisation de cette opération, malgré les évolutions hein, dont a parlé Jean-Jacques Bridet, qui en fait ne remettent pas fondamentalement en cause les débats qui ont été posés dès 2015, de la pérennisation dans un format très massif, parce qu'il y a effectivement 7000 militaires mobilisés en permanence, et que se pose la question de l'efficacité, parce qu'en fait, quand on essaye d'évaluer l'efficacité, on est toujours dans l'ordre de la supposition, ça veut dire qu'on suppose que cette opération a été dissuasive. Alors, on n'a aucun élément qui permette de le confirmer ou de l'infirmer réellement.
Allez, on va tout de suite au standard du téléphone sonne retrouver Francis. Francis, bonsoir. Francis, on vous retrouvera dans quelques secondes sur la pertinence du dispositif. On est bien d'accord. Il n'y a pas de remise en cause globale de Sentinel, mais c'est plus un débat sur l'adaptation du dispositif, Jean-Jacques Bridet.
Il faut surtout avoir en tête la réalité de la menace à laquelle notre territoire et nos concitoyens sont menacés. Hein. Donc il faut faire attention quand on dit que aujourd'hui ça perd de la pertinence ce dispositif, mesurons nos termes et faisons en sorte que on soit tous derrière ces militaires qui nous sécurisent, ce qui sécurise le territoire et aussi notre quotidien. C'est eux qui risquent leur vie, c'est eux qui interviennent en premier. Et aujourd'hui, le dispositif n'a jamais été mis en défaut, malgré les différents modus operandi sur lesquels ils ont été confrontés. Donc aujourd'hui, nos soldats sont bien là présents. Est-ce qu'il en faut 7000? Est-ce qu'il faut que ça soit des patrouilles de 3 dynamiques? Est-ce qu'il faut élargir ce cercle-là? Ça, c'est aux militaires de donner des réponses et de donner des scénarios au président de la République pour qu'ils prennent des décisions concernant l'évolution éventuelle du dispositif Sentinel.
Le chef d'état-major de l'armée de terre disait, je crois, lors d'une des auditions à l'Assemblée nationale devant la commission de défense, qu'il pouvait proposer un système à 3 x 3000, c'est-à-dire 3000 militaires directement sur le terrain, 3000 autres qui seraient en renfort et prêts à être positionnés en cas de problème, et 3000 en formation, entre guillemets. Ça vous paraît une bonne idée ?
Je suis pas là pour commenter les scénarios qui vont être proposés, mais si on fait 3 x 3000, on n'est pas loin des 7 ou 10 000 hommes qui sont déployés. Donc après, comment, vers quels objectifs on les déploie? Est-ce qu'il faut sécuriser tous les aérogares et toutes les gares de notre territoire? Est-ce qu'il faut sécuriser les lieux touristiques, les lieux culturels et les lieux cultuels, etc. Donc ça, c'est par rapport à la perception de la menace qui sera faite auprès du président de la République et que lui seul prendra une décision concernant, justement, par rapport à cette menace, le déploiement de combien d'hommes. Alors, est-ce qu'il en faut 3 000, 5 000 ou 7 000? Je ne sais pas. Il y aura peut-être un débat d'ici quelques semaines quand les scénarios seront connus. Mais aujourd'hui, nous sommes à 7 000. Donc, Général Bossert, lui, il dit 3 000, 3 000, 3 000. 3 000 en réserve, 3 000 en déploiement direct et 3 000 au cas où il y aurait des menaces que nous n'avons pas encore connu, des menaces sur des sites chimiques, sur des sites, pourquoi pas, nucléaires, des menaces sur des grands centres touristiques où il y a beaucoup de touristes. Ce sont des événements dramatiques qu'on n'a pas encore connus. Il veut être prêt à pouvoir sécuriser au mieux et avoir une riposte la plus efficace possible si nous sommes devant un tel drame.
France Inter, Philippe Lefebvre. Le téléphone sonne.
Ah, est-ce que si c'est bon, direction Le Standard, nous retrouvons Jean-Louis. Jean-Louis, bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue sur France Inter, nous vous écoutons.
Eh bien écoutez, bonsoir à tous. Je voulais... Bonsoir. Moi, il y a une chose qui m'interpelle à chaque fois, que ce soit dans la presse écrite, dans la radio, dans la télé, à chaque fois que l'on... qu'il y a... Il y a juste souvent des débats sur ce sujet, et c'est normal, mais les réfractaires mettent en avant le coût faramineux de cette opération. Moi, je pense que, enfin, à mon avis, hein, je pense que les fonctionnaires, les militaires, les policiers, quoi qu'il en soit, ils sont salariés. Qu'ils soient ici ou ailleurs, ils sont salariés. Évidemment, il y a sûrement un surcoût pour l'hébergement, pour ceci, pour cela, et quelques primes par-ci, par-là. Mais, je pense que il y a de la désinformation sur le coût exorbitant de l'affaire.
Alors, Jean-Jacques Bridé, on va répondre à Jean-Louis sur le coût de cette... Parce qu'effectivement, ces militaires, ils sont salariés, donc de toute façon, le coût des salariés, ça ne changera pas. En revanche, il y a d'autres frais. Alors, on a une idée du budget de Sentinelle.
D'abord, la sécurité n'a pas de prix. Hein. On ne peut pas dire aux Français, ça coûte trop cher, donc on ne va pas vous sécuriser. Les décisions qui sont à l'origine de Sentinelle et du financement de Sentinelle ont été prises par le précédent président de la République lors d'un conseil au mois d'avril 2016. Et donc, on sait très bien que c'est une opération qui coûte bon an, mal an, autour de 200 millions d'euros. Donc aujourd'hui, ils sont financés dans le budget des forces armées. C'est intégré dans les OPINT, ce qu'on appelle opération intérieure et opération extérieure. Si on additionne les deux, on est autour d'1,1 milliard. Et donc, il y a 1,1 milliard qui est pour le déploiement. Je rappelle qu'il y a 30 000 soldats français qui sont déployés soit à l'extérieur, soit à l'intérieur de nos frontières.
C'est la plus grosse opération pour les militaires français en ce moment. Hein. Si on ajoute tout entre les opérations extérieures...
Oui, parce qu'on a 3 000 militaires, en gros, qui sont prépositionnés dans les bases, principalement en Afrique. On en a un certain nombre, quelques milliers, qui sont positionnés en direct sur des opérations, que ce soit au Levant ou là aussi en Afrique. Et puis on a les 7 à 10 000 sur le territoire français.
Nathalie, quelques centaines de millions d'euros, mais il faut savoir qu'au départ, l'opération n'a pas coûté grand-chose parce que ça a été démarré un petit peu de briquet de broc. Quoi.
C'est-à-dire quand vous êtes obligé de déployer 10 000 soldats en 72 heures, c'est ce qui s'est passé après les attentats de 2015, tout a été fait dans l'urgence, donc ils se sont retrouvés à être hébergés dans des lieux certains qui étaient insalubres. Il y a moins de casernes qu'avant parce qu'on a vendu. Il a fallu louer des voitures qui finalement ont été achetées d'ailleurs parce que quand on a vu que le système, le dispositif Sentinelle perdurait, il y a eu ça. Il y a eu les liaisons radio parce qu'il n'y avait pas de système radio qui était interopérable avec les forces de sécurité intérieure. Donc forcément, il y a eu des surcoûts qui se sont ajoutés en raison de l'urgence. Moi, j'avais une question là pour Bénédicte Chéron. Est-ce que si on fait un peu avancer le débat, peut-être en étant un peu polémique, est-ce que finalement la mission aujourd'hui de Sentinelle ne devrait pas revenir aux forces de sécurité intérieure?
C'est un peu que là que se situe le débat, et c'est pour ça aussi que il faudrait éviter de tomber dans un argument un peu facile qui serait de dire si on débat sur Sentinelle, on n'est pas derrière nos militaires qui risquent leur vie pour l'ensemble des citoyens. Je pense qu'au contraire, si on a le respect du sens de l'engagement militaire, il faut pouvoir débattre de l'emploi qu'on fait des forces armées, justement parce qu'on ne joue pas impunément avec cet engagement militaire et avec le sacrifice suprême auquel consentent les jeunes Français et les jeunes Françaises qui s'engagent sous l'uniforme. Il y a un vrai débat parce que on peut comprendre effectivement que dans l'urgence on déploie massivement des militaires. On peut se poser en revanche la question de cet usage, dans un usage qui est principalement un usage de sécurisation intérieure, de militaires dont ce n'est pas le métier, dont ce n'est pas la fonction première au service de la nation. Ça pose un problème à plusieurs niveaux. D'abord, il y a un problème vis-à-vis de la population. Ça veut dire qu'on est en train d'installer dans notre imaginaire national et collectif l'idée que finalement, eh bien, il est normal d'avoir des militaires en permanence dans nos rues qui, en fait, jouent aussi un rôle, peu ou prou, de sécurité quotidienne et ordinaire parce que les maires, par exemple, au moment des férias, on était dans le sud-ouest ou au moment d'un certain nombre d'événements estivaux, sont très contents d'avoir ces militaires, non pas tant à cause de la menace terroriste qui ne les effraie pas tant que ça dans certaines petites bourgades françaises, mais parce que, eh bien, les jeunes gens, les jeunes Français, boivent moins sur la voie publique quand il y a des militaires qui circulent, et que la petite délinquance, tout à coup, recule brièvement quand on déploie des militaires. Donc ça, c'est un premier problème. Et on se rend compte que les maires, quand on leur dit « bah finalement, là, vous n'aurez pas les militaires que vous aviez d'habitude », eh ben ils sont pas très contents, pas tant à cause de la menace terroriste qu'à cause de ce rôle secondaire, bien involontaire, hein, que jouent les militaires depuis le déploiement de l'opération Sentinelle. Le second problème, c'est qu'en fait, on est une fois plus dans un moment où, parce que on a des problèmes d'effectifs de forces de police et de forces de gendarmerie, eh bien, les armées jouent ce rôle commode de palliatif à tous les manques en termes de fonctions publiques, d'équipements, etc., et d'infrastructures qui font que, voilà, les armées jouent ce rôle commode aussi à moyen et long terme et permettent parfois aux responsables politiques de se défausser d'un certain nombre de responsabilités en termes de moyen et de long terme pour la politique de sécurité intérieure.
Jean-Jacques Bridet.
Oui, deux petits commentaires. D'abord, il ne faut pas oublier que je parlais tout à l'heure de la décision qui a été prise en avril 2016. Il y a eu l'arrêt des déflations des effectifs de nos armées, donc la baisse des effectifs, et même plus loin, on est allé plus loin, puisqu'il était décidé une remontée en puissance du nombre de soldats déployés dans la force opérationnelle terrestre, donc en fin de compte dans l'armée de terre. Donc, qui est passé de 66 000 à 77 000, cette force opérationnelle terrestre. Donc 11 000 soldats supplémentaires qui ont déjà été recrutés, qui sont en train d'être formés et équipés, et la fin de ce cycle se fera d'ici le prochain été. La deuxième chose aujourd'hui, en termes de stratégie, on a ce qu'on appelle le continuum entre la défense nationale et la sécurité intérieure. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de limite entre les forces de sécurité intérieure qui interviennent sur à l'intérieur de notre territoire, et les forces qui sont déployées à l'extérieur, que ça soit en Afrique ou au Levant ou ailleurs sur d'autres théâtres d'opérations. Donc cette notion de continuum fait que nos forces armées, il faut qu'elles se repositionnent stratégiquement sur leur rôle à l'intérieur de nos frontières, au sein de la société, pour assurer la sécurité de nos concitoyens, la sécurisation de notre territoire national, ainsi que de nos intérêts. Donc c'est dans ce cadre-là que nos responsables militaires feront des propositions au président de la République pour voir comment Sentinelle a un avenir dans cette nouvelle stratégie.
Alors, retourne au standard, retrouver Nicolas à Dijon. Nicolas, bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue sur France Inter, nous vous écoutons.
Oui, bonsoir. Donc moi j'ai une question par rapport à, alors ça a été un tout petit peu abordé tout à l'heure, par rapport à l'efficacité réelle de Sentinelle. Parce que sur les événements les plus récents, on a l'impression que Sentinelle est plus une cible que le bouclier qu'il est censé être. Hein. Il est censé déambuler maintenant, regarder, dissuader. Alors, est-ce qu'on a, à part les exemples où Sentinelle a été attaqué parce que c'était Sentinelle, hein, s'il n'y avait pas eu Sentinelle, il n'y aurait sans doute pas eu ces attaques, puisque c'est vraiment le dispositif qui était attaqué. Est-ce qu'on a des cas où Sentinelle a effectivement empêché des attaques ?
Jean-Jacques Bridet ? On peut parler d'Orly, par exemple.
On peut parler d'Orly et du Louvre, hein, où il y a eu des attaques qui ont été empêchées par les hommes de Sentinelle, les hommes et les femmes d'ailleurs de Sentinelle, donc qui ont réussi à neutraliser les terroristes. S'il n'y avait pas eu ces militaires à ce moment-là, on ne sait pas ce qu'auraient pu faire ces terroristes. Donc il y a une efficacité. Après, que les militaires soient une cible, effectivement, c'est pas du tout normal. Mais ça veut dire aussi que les personnes qui prennent nos soldats comme cible sont prêts à prendre n'importe quelle personne comme cible. Donc il est préférable à la limite que ça soit des hommes armés qui peuvent riposter et qui peuvent neutraliser rapidement ces terroristes, ces individus, que des citoyens qui ne sont pas du tout armés et pas du tout préparés à riposter à une telle violence.
Et qui peuvent réagir dans des conditions qui ne sont pas forcément très simples. À Orly, aéroport, plein de monde,
il n'y a pas eu passagers. De dégâts collatéraux, comme voilà. On dit, alors qu'il y a eu des tirs, et ce sont des militaires qui ne sont pas entraînés pour cela. Ce sont des militaires qui viennent parfois d'horizons différents dans les différents métiers qu'ont nos trois armées. Et ils sont en équipe de trois personnes. Ils s'entraînent avec ces trois personnes, ces trois collègues qu'ils ne connaissent pas forcément un mois avant.
Vous me le disiez d'ailleurs en préparant cette émission, il y a des gens qui sont issus d'unités qui ne sont pas forcément, j'allais dire, combattantes avec un grand C, qui sont plutôt d'unités du matériel, donc plutôt chargées d'entretien.
Ce ne sont pas des soldats qui s'entraînent toute la journée, qu'on met en binôme ou en trinôme, pour être actifs. Ce sont des soldats qui viennent de différentes armées, qui sont positionnés avec des différents scénarios, et à partir de ce moment-là, ils s'entraînent à deux ou trois, mais ce n'est pas leur corps de métier.
Et comment ils peuvent être aussi efficaces, par exemple, qu'un commando de marine ou un commando de l'air ?
Parce qu'on ne peut pas déployer 10 000 commandos de marine, on ne les a pas. Mais par contre, on a des soldats et ces soldats sont prêts à riposter avec les armes qu'ils ont maniées, sur lesquelles ils se sont entraînés. Mais ce ne sont pas des professionnels de la prise d'otage, ce ne sont pas des professionnels du commando armé.
Bénédicte Chéron.
Oui, excusez-moi. En fait, je voudrais quand même réagir à ce qui est dit sur la question de l'efficacité du dispositif. Ça pose un problème important, ce que dit Jean-Jacques Bridet, parce que, en fait, les spécialistes de l'antiterrorisme soulignent qu'on n'a à aucun moment, au cours des attaques qui ont lieu et lors desquelles les militaires de Sentinelle ont réagi, la preuve que ceux qui ont porté les armes souhaitaient s'en prendre à d'autres cibles qu'à des militaires de Sentinelle. Et se pose vraiment la question de savoir si Sentinelle détourne des attaques terroristes qui auraient pu toucher des civils sans défense, ou au contraire suscite des attaques qui spécifiquement s'en prennent aux forces de l'ordre ou aux militaires, parce qu'effectivement ce sont des objectifs revendiqués, parce qu'ils sont les dépositaires de la puissance régalienne. Donc c'est vraiment une question qui se pose et qu'on ne peut pas balayer d'un revers de main en se contentant de cette réponse, qui est dire mieux vaut qu'ils s'en prennent à des cibles armées qu'à des cibles non armées. Parce que c'est un raisonnement qui relève de l'aveu de faiblesse, et de se dire finalement, on ne sait pas répondre à la menace, donc on disperse des cibles armées en espérant que ceux qui menacent la France s'en prendront à ces cibles armées. C'est une logique de paratonnerre, c'est une logique qui peut se comprendre à court terme, parce qu'on peut estimer effectivement qu'à court terme, si on n'a aucune autre réponse, cette réponse-là est la moins pire, mais on ne peut pas mener à moyen et long terme une stratégie sur une logique du moins pire et sur une logique du paratonnerre. Et c'est bien pour ça, d'ailleurs, que les responsables militaires, dont parle Jean-Jacques Bridet, dans la discrétion que requiert leur fonction, évoquent depuis plusieurs mois des pistes d'évolution de cette opération, et les pistes qu'évoque le général Bossert de revenir à 3000 soldats déployés en permanence imposent de revoir la logique même de l'opération. Donc faut vraiment pas balayer ces arguments d'un revers de main en se contentant de cette réponse un peu facile qui est de dire mieux vaut qu'ils s'en prennent à des cibles armées qu'à des cibles non armées, parce que c'est à moyen terme et à long terme un aveu de faiblesse.
Allez, on retourne au standard, retrouver Francis à Sainte. Francis, bonsoir.
Oui, bonsoir, vous m'entendez bien là ?
Bienvenue sur France Inter, nous vous entendons parfaitement bien.
Merci, bon, c'est un témoignage. Donc dimanche dernier, j'étais dans une jolie ville en bord de Loire où il y a un superbe château, je ne dirais pas le nom de la ville, on va dire ça comme ça.
Monsieur, allez-y, dites-le.
Pardon ?
Dites-le, il n'y a aucun problème.
Bon, on va dire que c'était entre Chenonceau et Tours, voilà. Et donc, je me promène en fin de matinée, c'est gavé de monde, ambiance médiévale, ça sent bon la bouffe, on va dire ça comme ça. Puis à un moment, dans une rue bien étroite, je vois cinq soldats, avec leur FAMAS, le gilet pare-balles, le calot sur la tête, bleu ou noir, je ne me souviens plus. Et comme j'ai fait le service militaire et je connais le FAMAS, sur le FAMAS, il n'y avait pas d'approvisionnement, si vous préférez, il n'y avait pas de chargeur. Premier point. Deuxième point, ces soldats avancent en plein milieu de rue, comme ça, bien alignés l'un derrière l'autre, à un mètre à peine l'un derrière l'autre, ils sont cinq, je les ai eu le temps de les compter. Voilà. Donc je me suis posé une question, je me suis dit, il doit y avoir un autre groupe qui va arriver. Ben non. Donc je me suis peut-être dit, il y a peut-être aussi des gens en civil. Pourquoi pas, armé, peut-être dans un coin, par-ci, par-là. Enfin, voilà, ça m'a interpellé, ça m'a ramené de suite à l'affaire qui a été vécue par les militaires il y a quelques jours, quand ils se sont fait agresser par un véhicule, quoi. Je me dis, ils sont vulnérables, quoi, voilà. Moi, j'ai appris, quand j'ai fait le service militaire, qu'on devait se déployer. Voilà ma question, donc, oui, ça rejoint l'efficacité de notre armée en ce qui concerne notre sécurité.
Voilà, donc on le voit, Jean-Jacques Bosset, bridé, c'est pas forcément très rassurant pour la population. Au départ, juste après les attentats donc de janvier, on trouvait ça très bien d'avoir des soldats. Maintenant, on commence à regarder. Est-ce qu'ils sont aussi attentifs? Est-ce qu'ils ont le chargeur dans leur FAMAS? Quoique là, pour voir si le chargeur est dans le FAMAS, il faut vraiment être un spécialiste. Hein.
Mais moi, je fais toute confiance à tous nos soldats qui sont déployés. Hein. On n'est pas là pour les critiquer, pour savoir s'ils font bien leur boulot, si le chargeur est bien positionné, etc. Aujourd'hui, je répète, ils n'ont jamais été mis en défaut sur les opérations qui ont été contre eux. Alors, que ce soit des cibles ou que ce soit des paratonnerres, je ne sais pas. Ce dispositif, comme tout dispositif, peut être amélioré, et il sera amélioré, je pense. Aujourd'hui, on ne peut pas en dire plus. Ça sera peut-être des déploiements autrement, ça sera peut-être des équipements autrement, ça sera peut-être des formations autrement. Mais en tout cas, il y aura toujours, pour la sécurité de nos concitoyens, la sécurité de nos institutions, il y aura toujours des militaires. Personne ne remet en cause la pérennisation de ce dispositif, même s'il est appelé à évoluer.
Alors sur le site franceinter.fr, il y a une question de Pierre qui dit « Pourquoi ne pas en revenir à une police beaucoup plus présente, ce qui permettrait aussi progressivement de reconquérir certaines parties de quartiers où l'on ne va plus ?» Alors, est-ce qu'il faudrait supprimer Sentinelle et mettre plus de policiers?
Mais Sentinelle, ce n'est pas fait pour remplacer les missions de la police. Le ministre de l'Intérieur vient d'annoncer que la police, l'ancienne police de proximité, maintenant qu'on appelle la police de sécurité au quotidien, sera déployée, les premiers effectifs seront déployés dès la fin de l'année. Donc ça a été annoncé dès aujourd'hui. Je rappelle que dans le programme du président Macron, il y a aussi le recrutement de 10 000 policiers supplémentaires. Donc ce ne sont pas des missions parallèles, ce sont des missions qui sont complémentaires. La police, ce n'est pas l'armée, et elles ne feront pas les mêmes opérations. Mais voilà, donc là, il y aura l'armée avec certaines missions, certains objectifs, et il y aura aussi la police, et la police qui se déploiera dans les quartiers où aujourd'hui on manque de présence policière, on manque de visibilité policière.
France Inter, le téléphone sonne. Vos questions au 01 45 24 7000 ou sur les réseaux sociaux avec le mot-clé TELSON.
Retour au standard où nous attend Sandra. Sandra, bonsoir.
Oui, allô, bonsoir.
Bienvenue sur France Inter, nous vous écoutons.
Merci beaucoup, bonjour à tous, merci pour la qualité de vos émissions. Alors voilà, moi j'ai la chance d'être médecin militaire quelque part en France et les soldats de Sentinelle, donc on les soutient. Et donc depuis le début, on parle du dispositif Sentinelle, on a parlé un petit peu de chiffres, les 7000 personnels et le prix que ça coûte, l'efficacité. Moi j'aimerais revenir un petit peu au fait que ce sont des jeunes gens hein, qui sont dans les corps des soldats, qui ont entre 17 et 22 ans pour, on va dire, ce qu'on appelle le soldat 00, quoi, hein, celui qui tient son FAMAS plus ou moins chargé, c'est vrai, hein, sur le dispositif. Et en fait, ces gens-là, quand ils s'engagent, ils font, en 2 ans et demi de service, là, je vous raconte une histoire vraie, hein, 2 ans et demi de service, 5 opérations sentinelles, donc 5 opérations intérieures, de 2 mois, qui sont d'une part des opérations qui sont complètement déstructurantes sur le plan social, sont des gens qui n'arrivent pas à avoir de vie de couple, qui n'arrivent pas à s'installer, qui n'arrivent pas à avoir un suivi médical sérieux, ça j'en sais vraiment quelque chose, qui divorcent quand ils sont mariés, qui voient moins leurs enfants, qui s'entraînent moins pour les autres missions, mais ça j'imagine qu'on reviendra dessus après. Et puis surtout, l'opération Sentinelle qui a longtemps été considérée par un peu tout le monde comme une opération repos, vacances, remise en condition, est désormais une opération traumatisante. Parce que justement, ils deviennent des cibles, donc ils peuvent être attaqués. Donc on a quelques jeunes qui viennent avec des vrais syndromes post-traumatiques, parce que, bon, il ne s'est rien passé sur leur mission, mais ils ont eu l'impression d'être pris pour cible, ils ont été extrêmement stressés. Et on va avoir, dans les années qui vont venir, des vrais cas de décompensation traumatique sur une opération qui est une opération bon, qui est décidée. Hein, voilà, moi, j'ai un devoir de réserve sur la question, mais qui est en train de devenir véritablement dangereuse pour nos soldats, nos jeunes soldats.
Bénédicte Chéron, c'est ça le talon d'Achille aujourd'hui du dispositif?
C'est sûr qu'il y a des remontées de terrain alors qu'ils ne peuvent pas sortir de manière officielle par la bouche des chefs militaires, parce que, enfin en tout cas qu'ils ne peuvent pas sortir médiatiquement. Hein, les armées ne peuvent pas communiquer là-dessus et c'est normal hein, qu'elles ne puissent pas le faire. Mais que les remontées de terrain sur l'impact de l'opération sur à la fois le physique et le moral des troupes et sont assez nombreuses. J'ai envie de dire que le fait que les militaires soient fatigués et qu'ils souffrent physiquement, c'est facile de le dire pour moi qui ne suis pas militaire, hein, mais de manière un peu sèche, après tout, ils se sont engagés aussi pour accomplir des missions. Le problème, c'est que là, ce qui remonte beaucoup quand même du terrain, c'est qu'il y a une difficulté à percevoir et à comprendre le sens de la mission. Et ces remontées de terrain, elles n'existent pas sur d'autres types d'opérations, pour lequel le sens est compréhensible et très compréhensible notamment par la base des armées, parce que ce sont des missions qui correspondent, qui sont le cœur de métier des armées. Et il y a vraiment, mais c'est un vieux sujet hein, qui court en fait au sein des armées depuis la professionnalisation et même avant, une interrogation sur le rôle des militaires au sein de la nation. Et ce dont on se rend compte, dans le temps long, hein, au cours des 50 dernières années, c'est que le moral des armées, le moral des militaires est bon, et donc leur efficacité est bonne, quand ils sont majoritairement employés dans leur cœur de métier, qui est de faire la guerre, et qu'ils sont seulement marginalement employés dans d'autres fonctions. Ils ont toujours été marginalement employés dans d'autres fonctions, par exemple à l'occasion de catastrophes naturelles, ou même au sein de Vigipirate depuis 1995. Hein. C'est pas quelque chose de nouveau, simplement on était à 800 ou 1000 militaires mobilisés. Et quand ils sont massivement employés, durablement employés dans des missions qui ne constituent pas leur cœur de métier, et c'est le cas de l'opération Sentinelle, eh bien il y a une espèce de disjonction entre le sacrifice auquel ils consentent, qui est un sacrifice physique, un sacrifice moral, et le sens de la mission qui n'est plus perceptible. Et là, c'est vraiment quelque chose au sein des armées qui commence à se faire sentir et à se faire sentir de manière lourde et qu'on ne peut pas, là encore une fois, balayer d'un revers de main. Parce que entendre ces remontées, c'est aussi justement respecter l'engagement de ceux qui acceptent de rejoindre l'uniforme.
Nathalie Hernandez, vous l'avez constaté aussi dans vos reportages, du coup avec Sentinelle, ça fait moins rêver les jeunes futurs militaires, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui ils s'engagent en pensant plutôt aux opérations extérieures, aux célèbres OPEX comme on dit. Là on leur dit vous allez faire Porte d'Orléans, Porte de Clignancourt, 20 km à pied avec 20 kilos de matériel sur le dos, ça fait moins rêver.
C'est ce que disent effectivement certains jeunes militaires, d'autant qu'il y a eu un petit calcul de fait, certains sont absents de chez eux 280 jours par an, ce qui est quand même énorme. Ils peuvent avoir aussi des permissions réduites. Je voudrais souligner autre chose, c'est que dans un rapport d'Eli Tenenbaum, qui est chercheur à l'IFRI, qui s'appelle La Sentinelle Garée, les soldats de Sentinelle se sont aussi retrouvés à signaler pas mal d'incidents. Et pour vous donner quelques chiffres, de janvier à septembre 2015, le ministère de la Défense avait recensé 1300 incidents pour la seule région d'Île-de-France, dont 70% d'actes malveillants, provocations, insultes, menaces, voire dans certains cas isolés des agressions. Et en janvier 2016, l'état-major de la zone de défense de Paris en décomptait encore 3 à 6 par semaine. C'est un facteur important qui doit aussi ajouter à sans doute une baisse de morale pour ces soldats de Sentinelle.
Et on note des ruptures de contrat chez les militaires, Jean-Jacques Bridet, qui s'y retrouve plus dans ce métier qui était leur avant.
Il y a effectivement des ruptures de contrat, mais il faut entendre que la condition militaire n'est pas une condition facile. Le métier de militaire, c'est quand même un métier où on risque la vie et on accepte de donner la mort. Donc psychologiquement, c'est déjà très dur à vivre. Donc les OPEX, c'est pas une balade à l'extérieur dans des contrées qui sont un peu original.
Non, mais ça fait fantasmer le jeune qui a envie de devenir militaire. Ça fait fantasmer,
mais les retours d'opérations, quand on a par exemple nos militaires qui sont allés en République centrafricaine, quand ils ont empêché des massacres, mais parfois ils n'arrivaient pas à les empêcher, il y a eu aussi des traumatismes post-opération. Hein, quand on est obligé de risquer sa vie avec des djihadistes en face de nous qui sont prêts à se suicider pour porter la mort, c'est quand même très compliqué. Donc, effectivement, aujourd'hui, on a beaucoup de pression psychologique sur nos soldats. On a beaucoup de personnes qui sont en difficulté. On ne le nie pas, les responsables militaires en ont bien conscience et ils veulent maintenir le moral de leurs troupes et ils veulent tout faire pour que ce moral soit complètement conservé par nos soldats. Mais ça va être un chemin qui va être long et c'est pas en abandonnant Sentinelle qu'on va résoudre ce problème. Donc nos soldats sont en opération extérieure ou intérieure dans des situations très difficiles, très critiques. Il faut les soutenir, mais il faut aussi leur donner les moyens de faire leur mission le mieux possible pour eux et pour nous.
Bénédicte Chéron.
Oui, non, je souhaitais simplement souligner que on a tendance de manière un peu binaire à dire bon bah voilà, il y a l'opération intérieure qui ne fait pas rêver, l'opération extérieure qui fait rêver. Il s'agit pas de faire rêver le jeune engagé. Il s'agit de savoir quelle est la vocation première du soldat qui s'engage pour porter les armes au service de la nation. Le fait qu'il existe des opérations intérieures est tout à fait légitime. Personne ne remet en cause le fait que les militaires français aient combattu en France, sur le territoire national, ni pendant la Première, ni pendant la Seconde Guerre mondiale. On peut même aussi évoquer la question de la guerre d'Algérie, même si c'est des situations extrêmement différentes. La question, c'est de savoir vraiment dans quel emploi ces soldats sont placés et face à quelle mission ils sont placés. Or là, ils sont dans une mission dont, dès le départ, qui a dès le départ été privée de tout objectif atteignable, puisqu'on est dans une mission paratonnerre ou dissuasive sans qu'il y ait le moindre objectif atteignable. Donc si vous voulez que des militaires soient mobilisés dans le cadre de cette mission intérieure, comme ils l'ont été pendant longtemps au sein de Vigipirate, ça peut avoir un sens. La question, c'est de savoir si cela a un sens qu'ils soient massivement et durablement engagés dans cette mission qui ne relève pas de leur cœur de métier.
Allez, on retourne au standard du téléphone sonne, on retrouve Margot. Margot, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Bienvenue sur France Inter, nous vous écoutons.
Je vous remercie pour ce débat intéressant et puis qui rappelle que les militaires par cette mission sont en train de retrouver un certain nombre de considérations de la police nationale. Ma question portait notamment sur le remplacement des militaires par des forces de police. Est-ce qu'il est envisagé, sachant que dans certaines zones, notamment en région parisienne, certaines missions ont déjà été reprises par des policiers et que pour la plupart du temps, ils sont assurés par des unités composées de fonctionnaires de police très mal formés, très jeunes, dont la formation a été écourtée pour qu'on puisse derrière afficher une augmentation des effectifs de police. Quelles sont les solutions envisagées, sachant qu'on risque de rencontrer les mêmes problèmes et en termes de sens de mission, de formation et de carrière des fonctionnaires qui vont être exposés à des dangers particuliers.
Jean-Jacques Brédé, on avait déjà un petit peu répondu tout à l'heure. Hein. Pas question d'avoir une force sentinelle avec des policiers.
Non, c'est pas du tout les mêmes missions. Je rappelle d'abord qu'il y a une augmentation des forces militaires de 11 000 soldats et qu'il y aura progressivement une augmentation de nos effectifs policiers de 10 000 hommes. Donc nous verrons avec tous ces moyens humains supplémentaires comment répondre pour que nos concitoyens et nos intérêts soient le plus sécurisés possible à l'intérieur de nos frontières comme à l'extérieur.
Alors il y a une question par mail sur le site franceinter.fr de Dominique qui nous dit « Si les soldats ne travaillaient pas dans l'opération Sentinelle, à quoi seraient-ils occupés ? Autrement dit, de quoi se prive-t-on lorsque l'on affecte nos armées à Sentinelle ?» qu'on ne fragilise pas un peu d'autres pans de la défense ?
C'est pour ça que les effectifs des armées, on a arrêté la baisse et on a réaugmenté leur effectif, donc 11 000 hommes supplémentaires, premièrement. Et deuxièmement, c'est pour ça que, alors dans un autre débat qui est un débat budgétaire, le président de la République a annoncé une montée en puissance des budgets consacrés à la défense nationale et aux forces armées de pas mal de pourcents, qui va amener à 2% du PIB en 2025 à partir de 2018. Donc un effort budgétaire considérable pour donner les moyens à nos soldats de remplir les missions pour qu'ils leur seront données.
Avec une coupe quand même de 850 millions d'euros pour 2017.
Hein. Oui, attendez. C'est un autre problème. C'est un autre problème. Ces 850 millions, je me suis déjà assez prononcé là-dessus. Je n'étais pas forcément pour ce choix, mais ce choix a été entériné par le président de la République. Il est acceptable. Par contre, le président de la République a annoncé qu'à partir de 2018, et 2018 c'est dans 6 mois, à partir de 2018, l'effort sera important, revu à la hausse, avec dès 2018 1,5 milliard supplémentaires par rapport à 2017.
Bénédicte Chéron.
Oui, je voulais quand même préciser que les 10 000 soldats supplémentaires qu'on a recrutés, notamment avec comme argument l'opération Sentinelle, n'ont été qu'un petit frein à la baisse d'effectifs très ancienne qui touche les armées, et que la crise des effectifs des armées est loin d'être réglée avec ces 10 000 recrues. On n'a pas augmenté les effectifs, on a juste moins diminué que prévu les effectifs au cours des 2 années qui viennent de s'écouler. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, cette question est très intéressante parce qu'elle touche bien au-delà de l'opération Sentinelle à la question de la politique de défense et de sa cohérence. Ça veut dire que l'auditeur demande de quoi se prive-t-on quand on déploie massivement et durablement ces militaires sur le territoire national. On se prive, en fait, du maintien des savoir-faire et des compétences et des capacités opérationnelles à moyen et long terme. Mais on est bien au-delà de la question de l'opération Sentinelle. Ça veut dire que toutes les questions budgétaires qui touchent les armées concernent bien sûr les équipements et les matériels dont on parle beaucoup parce que c'est très visuel, parce qu'il y a des industriels de l'armement derrière qui ont des services de communication assez efficaces, mais on touche beaucoup plus en profondeur la question de la transmission des savoir-faire militaires par des générations plus anciennes à des générations plus jeunes. On touche au moral des troupes et à la fidélisation des jeunes recrues qui, en fait, quittent les armées au bout d'un an, 2 ans ou 3 ans et ne restent pas durablement parce qu'elles se sentent peu considérées, mal considérées, parce qu'à chaque fois qu'un chef de l'État annonce des coupes budgétaires ou des gels de budget des armées, eh bien, elles se disent que finalement le sacrifice auquel ils consentent ne mérite pas...
Rapidement, car nous allons devoir conclure.
Suffisamment d'attention. Donc c'est vraiment une question large qu'il est urgent de prendre en compte.
C'est pour ça que le budget va augmenter.
Voilà, donc vous le voyez, derrière les soldats de dispositifs Sentinelle que vous allez croiser dans les rues, il y a beaucoup de débats, beaucoup de questionnements. Et on n'a pas fini de vous en parler sur France Inter. C'est la fin de cette émission. Demain, eh bien, nous parlerons du sport qui se conjugue au féminin, rugby, football, des sports qui ont la cote et qui attirent spectateurs et aussi sponsors.